Vendée Job, le podcast du podcast vendéen consacré à l'emploi en Vendée. Vendée Job.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Vendée Job, le podcast consacré à l'emploi en Vendée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le stress au travail, un sujet qui concerne plus de 60% des travailleurs français. Comment le gérer? Comment le prévenir? Les réponses à vos questions, c'est dans Vendée Job épisode 2 et c'est parti!
Vendée Job.
Et pour répondre à vos questions et évoquer le stress au travail, je suis accompagné par Damien Simonet, fondateur de Kizen Consulting, société basée au Sable d'Olonne. Bonjour Damien.
Bonjour Benjamin.
Damien, vous avez de nombreuses casquettes, dont celle de coach, de formateur, de préparateur mental. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité?
Je suis Damien Simonet. Comme vous l'avez dit, j'ai créé la société qui s'appelle Kizen Consulting, où j'interviens principalement pour accompagner les gens pour qu'ils soient plus solides dans leur activité, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient cadres, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient managers. L'enjeu, c'est qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, et qu'ils soient capables d'assumer ce que leur vie leur met sur leur chemin, que ce soit une situation un peu particulière, des relations personnelles un peu difficiles de temps en temps, que ce soit la volonté de dépasser des limites, d'assumer un projet qu'on se met devant soi, comme parcourir un marathon, racheter une entreprise ou gérer une équipe un peu plus grande. Quelles que soient les thématiques, l'enjeu, c'est d'être plus solide et plus stable dans son activité.
Et autre casquette, Damien, je le disais, parmi vos nombreuses activités, celle aussi de podcasteur, puisqu'il y a les clés de la sérénité, un podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de téléchargement, mais aussi sur le site du podcast Vendéen. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept pour ceux, Damien, qui n'auraient pas encore découvert ce podcast?
C'est gentil de mettre un coup de projecteur dessus. Effectivement, c'est des podcasts que j'ai voulu résolument courts et efficaces, sur, on va dire, 5 à 10 minutes grand maximum, de façon à mettre le focus sur certaines thématiques qui sont très pragmatiques et qui font souvent écho à des coachings que j'ai pu faire. On va prendre l'exemple d'un qui est assez fréquent, c'est la capacité à dire non et pourquoi et comment dire non aux gens. Voilà, c'est le dernier podcast qu'on a mis en ligne, et l'idée, c'est tous les mardis matins autour de 8h, il y aura un nouveau podcast qui sera mis en ligne, et sur le podcast Vendéen et sur l'ensemble des plateformes, comme vous l'avez dit.
Et ça tombe bien, puisqu'on va le voir tout à l'heure, mais dans les causes de stress en entreprise, il y a aussi le fait de ne pas savoir dire non. Donc ça rejoint un petit peu la thématique du podcast des clés de la sérénité. Allez voir ça sur le site du podcast Vendéen ou sur les plateformes habituelles de téléchargement. Je donne quelques chiffres quand même importants avant d'entrer dans le vif du sujet avec Damien. Le stress au travail, 61% des travailleurs français ressentent du stress au travail au moins une fois par semaine. 42% des salariés français sont en détresse psychologique modérée, 15% en détresse psychologique élevée, donc c'est quand même assez important comme chiffre. Et puis le niveau de détresse élevé touche en fait davantage les jeunes. Ça peut paraître étonnant, mais 28% des 18-29 ans, les employés c'est 20% et les télétravailleurs à temps plein c'est 26%. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Déjà, question toute bête pour débuter, Damien, le stress c'est quoi?
Quand on parle de stress au travail, on pense souvent que c'est d'avoir trop de boulot. Et en fait, pour moi, le stress, c'est un décalage entre ce qu'on perçoit comme une exigence dans une situation, la difficulté de ce qu'on va avoir à faire, et les ressources qu'on pense avoir pour le faire. Ça peut être des problématiques de perception de temps, de compétences, le soutien, l'énergie, ou même souvent, et on va le voir peut-être tout à l'heure, quand le manager donne des consignes qui sont floues, avec peu de clarté. Ce qui fait que derrière, quand on pense au stress, la même situation va être vécue de façon complètement différente par deux personnes différentes, en fait. Parce que on ne parle que de perception. C'est une perception de la difficulté de la tâche que j'ai à accomplir et la perception de mes capacités. Et en fait, la vraie situation, enfin la vraie problématique avec le stress, c'est quand C'est quand il dure, c'est quand on ne le régule plus, et c'est quand ça commence à faire dégrader la santé, la qualité de travail et la qualité de vie, tout simplement. Dans un monde de travail, il ne faut pas chercher le zéro stress, ça serait irréaliste. Et je sais même, dans certaines activités, ça serait peut-être pas souhaitable d'avoir zéro stress. On cherche un environnement où le stress, il reste ponctuel, il reste gérable. Et parfois même, le stress peut être stimulant, où on a des leviers pour l'ajuster, autant du côté du salarié que du côté du manager.
Oui, on parle de deux types de stress. En fait, les médecins parlent de stress ponctuel et de stress chronique. Damien, il faut bien faire la différence.
Si on va au-delà de ça, on parle de e-stress, e comme eu comme euphorie, quelque chose qui va être motivant, qui va être dynamisant, et le distress qui va générer du négatif, en fait, qui va amener des tensions. Généralement, le e-stress, il est très ponctuel, et le distress, malheureusement, il dure.
Et tu le disais, Damien, je me permets de te tutoyer, puisque...
Avec plaisir.
C'est comme ça, généralement, en Vendée, et puis on va pas mentir à nos auditeurs, on se connaît maintenant un petit peu en dehors de l'émission. Tu le disais, c'est important aussi, on entend souvent cette phrase, le bon et le mauvais stress, donc tu nous confirmes que le bon stress, ça existe.
Ah, absolument, absolument. Alors, forcément, je viens du milieu du sport, donc... C'est quelque chose qui est très souvent utilisé avant un match, par exemple. C'est utile d'avoir un stress. Les comédiens le disent, si on n'a pas le trac, ça sert à rien. C'est Sarah Bernard qui disait, un jeune artiste qui lui demandait « Mais comment ça se fait qu'avec toute votre expérience, vous ayez encore le trac ?» Et elle lui dit « Mais t'inquiète pas, ça vient avec le talent. » Donc ça sous-entend que dans certaines activités, il faut avoir un niveau de tension qui va amener un peu plus de focus, un peu plus de précision, un peu plus de concentration pour faire une activité. Alors oui, effectivement, le stress aigu et ponctuel, ça va mobiliser de l'énergie avant un enjeu, une présentation, un match, un entretien, une prestation sur scène, une prise de parole. C'est ce qui va permettre, c'est celui qui s'allume quand on a un défi qui va... comme je disais, qui va mobiliser un peu plus d'énergie, un peu plus de concentration. Et la priorité des priorités, pour moi, le bon stress, c'est celui qui s'éteint dès qu'on passe à l'action. On voit rarement quelqu'un qui prend la parole continuer à stresser une fois qu'il a pris la parole. On voit rarement un sportif continuer à stresser sur le terrain ou un artiste continuer à stresser une fois qu'il est devant son piano. C'est ça la vraie différence. Le bon stress, c'est celui qui s'allume et qui s'éteint. Le mauvais, c'est celui qui reste sur on tout le temps. Le rôle du manager et même du salarié, c'est de trouver ces interrupteurs qui existent, en fait. Comment vous dire ? Le bon stress, il a même quelque chose de particulier. Enfin, quand on parle de stress, on parle d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Elle a même un autre avantage, c'est que l'ocytocine, elle a cette capacité à nous relier aux autres. Ça va nous permettre de demander de l'aide, de demander du soutien à ses proches, à son équipe. Donc, au-delà de ce développement de la concentration, de l'énergie, du focus qu'on va avoir avec le bon stress, ça génère même cette capacité à nous tourner vers les autres. Donc, voilà, ce stress-là avec lequel on est capable de faire un on et un off a de super vertus pour être encore plus performant.
Et on va donner quelques causes du stress au travail, puisque Damien en a parlé, mais OpinionWay en fait a recensé les causes de stress au travail en France. Déjà, il y a évidemment des facteurs plus importants que d'autres. Par exemple, en numéro 1, ce qui arrive dans 55% des cas, c'est le manque de temps. Après, il y a devoir faire de la quantité au détriment de la qualité au travail. On a le fait d'avoir des outils qui ne fonctionnent pas ou qui sont inadéquats dans 49% des cas. Ne pas pouvoir dire non, donc ça tu en as parlé tout à l'heure, ne pas pouvoir dire non à une charge de travail alors que le sujet a été déjà abordé. On a le manque de retour sur le travail, la peur des reproches ou de faire une erreur, et puis il y a aussi le sentiment d'inutilité au travail. Je suppose que Damien, dans ton activité, ce sont des sujets qui forcément reviennent et qui peuvent être aussi bien évidemment contrôlés et modifiés en fonction du management dans l'entreprise.
Ouais, et effectivement, et la première des choses, c'est comprendre quels sont les signes révélateurs de tout ça. Si on commence par ça, c'est parce que le corps nous parle avant notre cerveau et qu'on va avoir forcément des points de vigilance. Et pour le salarié, la première des choses, c'est la fatigue qui passe plus, même après un week-end ou même après des vacances. J'ai souvent tendance à dire, quand on revient au travail après les vacances, qu'on a oublié ses codes de connexion pour allumer son PC, c'est très bon signe, ça veut dire qu'on a complètement tout oublié. L'autre chose qui va se passer, c'est les ruminations, le soir ou la nuit, quand on va refaire sa journée ou anticiper celle du lendemain, on pense aux mails qu'on n'a pas envoyés, aux mails qu'on aurait dû recevoir qu'on n'a pas reçus, le client qui a répondu, le fournisseur qui n'a pas encore répondu, enfin voilà, à ces réunions qu'on doit préparer et qu'on sait qu'elles vont nous prendre du temps, qui vont, comme tu le disais tout à l'heure, on sait qu'on va devoir partir en réunion, mais que pendant le temps de la réunion, on n'aura pas eu le temps de faire notre travail. Les problèmes de sommeil, on a de plus en plus de gens qui ont du mal à dormir, on le voit de plus en plus, des difficultés d'endormissement, des réveils, les gens qui se lèvent aussi fatigués qu'ils sont couchés. Le stress, ça génère également de l'irritabilité, et là on a un vrai impact par rapport à la vie de famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du conjoint ou de la conjointe. Ce sont des vrais signes. La dernière chose, enfin l'autre chose, c'est les pertes de motivation. Et enfin, c'est des difficultés de concentration quand on doit relire trois fois le même mail, quand on oublie des choses simples, le nom ou le prénom d'une personne, ou quand on se disperse facilement. Ben, ce sont des signes qu'il faut commencer à se dire, ben, tiens, faut que je mette un petit peu le pied sur le frein parce que ça commence à accélérer. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça devient un piège parce que ça devient une norme. On se dit, ben, c'est la période, ça ira mieux plus tard, ou c'est comme ça pour tout le monde. Et en ré réalité, ce n'est pas des défauts personnels, c'est juste des signaux d'alarme qu'il faut écouter. Quand on a sur sa voiture un clignotant, enfin un voyant qui s'allume, qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on essaye de le comprendre. Mais en fait, tout ce que je viens de dire, les problèmes de sommeil, d'irritabilité ou de choses comme ça, ce sont des signaux, il faut juste s'arrêter pour les voir. Et les signaux, ils sont vrais aussi pour les managers. C'est-à-dire que chaque collaborateur va avoir des signaux qui sont différents. Et très souvent, le manager, il doit être vigilant à ça, c'est les changements de comportement. Chaque changement d'un comportement dans la durée doit alerter un manager. Quand il y a un collaborateur qui augmente son nombre d'erreurs, des oublis, des retards inhabituels, hop, ça doit, comme si c'était un voyant de la voiture qui s'allumait, on doit dire, tiens, il y a quelque chose de particulier. Quand il y a des tensions dans l'équipe, des petites piques, un peu d'irritation, des malentendus. Quand il y a des collègues qui, au contraire, vont se replier sur eux. Ils vont se mettre derrière leur PC ou derrière leur outil de travail, ils vont se refermer, ils vont moins participer. Quand ils vont éviter les échanges, quand le manager va arriver dans la salle de café, que le manager s'en aille, s'en va, le collaborateur s'en va. L'absentéisme, on en a parlé tout à l'heure, le stress va générer beaucoup plus d'absentéisme, des arrêts maladie, des problèmes physiques. Quand vous avez un collaborateur qui dit, tiens, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la nuque. Ce sont des signes, ce sont des changements de comportement qui doivent dire, mais, tiens, on est en train de tirer trop sur la corde. Et si on ne veut pas que la corde elle lâche, mais il faut écouter tous les signaux. Je vous le redonne l'exemple, sur une voiture, quand on a un voyant qui s'allume, on regarde le voyant, on regarde ce que c'est, on y fait attention. Quand on nous dit on manque d'huile, ben, on va remettre de l'huile. Mais là, c'est un peu pareil, on a des signaux, on écoute le signal et on essaie de résoudre le signal.
Il y a quand même une bonne nouvelle, Damien, dans les études qui sont sorties, c'est que contrairement peut-être à avant, où on n'avait pas trop le droit de se plaindre et c'était mal vu, là on voit, selon Opinionway, deux Français sur trois estiment qu'ils peuvent exprimer une situation de stress ou de mal-être dans leur entreprise sans être mal vu. Ça, c'est déjà du positif, Damien, par rapport à une époque pas si lointaine.
C'est évident, c'est une grande. C'est une grande nouveauté qui nous permet d'être un peu rassurés sur la suite. Et c'est le rôle du manager, et les managers ont vraiment progressé ces dernières années par rapport à cette qualité d'écoute qu'on peut avoir. C'est la vraie écoute, pas l'écoute où on va parler des chiffres, de la rentabilité, de la capacité à avoir assumé une tâche. C'est l'écoute en se disant, tiens, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que le poste de travail te convient? Comment tu te sens dans la charge de travail? Est-ce que tu as besoin de formation? Est-ce que ça se passe bien avec tes collègues? Ça, c'est hyper important. Et dans cette notion-là, il y a plusieurs choses que le manager peut mettre en place qui va faciliter ça et qui est de plus en plus mis en place. La première chose, c'est le droit à l'erreur. Si ch chaque personne se dit, bah, tiens, c'est pas grave si je fais une erreur, ça sera résolu. eh bien, derrière, les gens vont travailler moins dans la peur. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. De plus en plus, les managers le font. Ils reconnaissent l'effort, les progrès et pas seulement les résultats. Il y a le feedback qui aide, le feedback constructif qui va aider à progresser sans humilier et sans dévaloriser. On va commencer par donner des choses positives. Je parle souvent de la notion de 3 plus 1, c'est-à-dire que le cerveau va commencer à entendre 3 choses positives sur ce qu'on a bien fait, et le manager peut dire « Oui, mais sur cette action-là, on aurait pu faire différemment. Comment t'aurais pu faire différemment ?» Et en fait, le cerveau, en ayant entendu 3 choses positives avant, se dit « Ah oui, on reconnaît mes efforts, mais on me demande encore d'avancer. » Il y a même une volonté de faire progresser la personne. Le collaborateur, il le sent forcément positivement. On a passé le management d'avant où on disait ça va pas. Et quand le manager voyait le collaborateur qui se liquéfiait devant lui, il disait ah oui, mais ça va bien. Ce qui fait que même la chose positive qu'il lui disait à la fin n'était pas entendue parce qu'il était déjà noyé par tous les reproches qui lui avaient été faits avant. Et en fait, la dernière chose qu'on voit également, c'est que les managers sont de plus en plus formés à la santé mentale. Ils sont capables de repérer les signaux et d'aborder ces sujets, mais comme tu le disais tout à l'heure, sans tabou, et pour proposer des solutions. Et ça, c'est une vraie évolution.
Ouais, ça, c'est la vraie bonne nouvelle. En revanche, en parlant de santé mentale, il y a encore un point d'amélioration en France. Alors évidemment, c'est valable aussi dans d'autres pays européens et dans le monde, certains endroits du monde, c'est même un sujet qui part de très bas. Mais le petit côté négatif, c'est qu'il y a moins d'un salarié sur 4 qui a accès à un plan de prévention complet en santé mentale. C'est 23% des salariés français. C'est là aussi où il y a du progrès à faire, Damien, c'est que ça reste encore un peu un sujet tabou, la prévention mentale.
Oui, on a de plus en plus de formations sur cette thématique-là. J'ai pas trop d'avis dessus.
Mais aussi la volonté du salarié de lui-même d'avouer qu'il y a un souci et d'aller aussi consulter. C'est là aussi peut-être où faut continuer de progresser, Damien.
Oui, au même titre qu'un salarié doit a conscience que dans son travail, il faut qu'il sache maîtriser son outil de travail, son ordinateur, un logiciel. Il faut aussi qu'il ait conscience qu'il peut se former pour gérer les situations difficiles, pour gérer le stress, pour gérer sa santé mentale, comme si c'était un logiciel, en fait, qu'il se prenne en main, parce que c'est son premier outil de travail, c'est lui. Son premier capital, c'est lui. Et l'enjeu, c'est de prendre soin de soi. Hein. Toutes les personnes que j'ai la chance d'accompagner en coaching, je me dis que déjà, ils ont fait les 3/4 du chemin, puisqu'ils ont pris conscience que leur priorité, c'était eux et qu'ils voulaient avancer sur eux-mêmes.
Oui, comme un couple qui n'a pas besoin d'être au bord de la séparation pour aller consulter un psychologue. C'est bien aussi de devancer les choses et d'anticiper comme le dit Damien. Là, on a parlé du constat et on a un petit peu mis en lumière les différents signaux d'alerte. Maintenant, Damien, tu es aussi là pour ça. Quels sont, entre guillemets, les médicaments? Il y a des études qui prouvent que l'activité physique, puisque tu es aussi dans le milieu du sport, que l'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'important pour améliorer et gérer son stress. Quels sont tes tips un petit peu, Damien, en tant que coach et préparateur mental, quels seraient les conseils pour, gérer son stress et essayer de le diminuer dans certaines situations?
Alors, la première, tu en as parlé, c'est le fondement de tout. Je parlais de capital. Le capital humain, c'est votre corps, c'est notre corps. Le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, le temps de récupération, c'est la base de la base. C'est-à-dire que, je vais presque dire, il faudrait presque dormir avant d'avoir sommeil. C'est faire de l'activité physique de façon à ce que, musculairement, on fasse attention à notre dos, à l'endroit où va se stocker le stress, hein, le dos, la nuque. On arrive à le remuscler. La marche suffit, hein, marcher régulièrement, marcher tous les jours, ça en fait partie. L'alimentation, éviter tous les excès, c'est la base. Et enfin, les temps de récupération. Quand on parle de récupération, c'est des moments sans écran où on coupe vraiment du travail. On voit souvent aujourd'hui dans les entreprises, les gens qui descendent, ils font déjà l'effort de sortir de leur poste de travail, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont scroller sur leurs écrans plutôt que de prendre l'air, d'aller marcher 10 minutes et de revenir à leur poste de travail. La vraie récupération, c'est ça. À tous les sportifs que j'accompagne, c'est quasiment obligatoire pour eux. Je les incite à utiliser la cohérence cardiaque. Il y a plein d'outils qui existent, plein d'applications qui existent sur la cohérence cardiaque. C'est des applications qui sont gratuites, qui permettent de cadrer sa respiration sur des séquences de 5 à 6 secondes régulières, sans faire de stop, et qui apaisent énormément et qui apportent beaucoup de relaxation derrière. La troisième chose, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est la capacité à dire non. Et si ce n'est ne pas dire non, c'est dire pas tout de suite. Quand c'est objectivement trop, il faut être capable de dire à son manager, là, je ne vais pas être capable, je préfère le faire la semaine prochaine ou dans un mois, parce que j'aurai telle ressource, il manque ça aujourd'hui pour pouvoir avancer. L'autre chose pour gérer le stress, c'est de demander de l'aide. Tu en as parlé tout à l'heure, certaines entreprises ont la chance d'avoir des managers qui sont prêts à écouter. Et ça, c'est une chance. Pour les autres, s'ils n'ont pas cette ressource en intérieur, à l'intérieur de l'entreprise, ne pas hésiter à aller voir des spécialistes pour gérer ce stress. Le fait d'en parler peut faire baisser le stress de façon considérable. Donc, ne pas le garder pour soi, ça va permettre d'aider. Et puis, si on peut, c'est d'aller se former sur la santé mentale. C'est des outils assez pertinents qu'on voit, et on voit de plus en plus de formations sur cette thématique-là.
Et si vous n'arrivez pas à gérer totalement votre stress malgré les conseils de Damien, vous pouvez évidemment appeler Damien, on rappelle, hein, fondateur de Kizen Consulting au Sable d'Olonne. Damien, on va terminer l'émission avec les questions, puisqu'on a reçu quelques questions de Vendéens, de Vendéennes pour aborder ce sujet du stress au travail. On remercie d'ailleurs ceux qui nous ont envoyé des questions via notre site internet, le podcast vendéen.fr. On a Sylvie de Saint-Jean-de-Beunier qui nous dit « Bonjour, j'ai passé une série d'entretiens d'embauche, je perds mes moyens dès que j'entre dans la pièce. Que puis-je faire ?» Alors juste pour avant que Damien donne ses conseils, je réponds à Sylvie. La semaine prochaine, ce sera la thématique de l'épisode 3 de Vendée Job, ça sera l'entretien d'embauche, donc on abordera ce sujet en longueur. Mais Damien, pour répondre à Sylvie, est-ce que tu as un petit conseil pour que, évidemment, l'entretien, on a beau le préparer, parfois le stress prend le dessus au moment de franchir la porte.
C'est tout à fait légitime que la personne soit stressée avant un entretien d'embauche, et je vais presque dire c'est bon signe. Il y a un enjeu qui est fondamental au moment où on passe un entretien, c'est qu'on veut avoir un nouveau boulot, peut-être une nouvelle qualité de vie, un nouveau lieu de travail, des nouveaux challenges, c'est tout à fait légitime. Ensuite, il y a d'autres notions qui rentrent en concurrence par rapport à ça, c'est le regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être à la hauteur, il y a plein de questions qui viennent en tête. Et pour ça, il y a plusieurs outils qu'on peut se mettre en place. La première des choses, c'est la préparation factuelle. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. À chaque fois qu'on a un inconnu, on se met en forme de stress, d'inquiétude, quelque part. Si on réduit la part d'inconnu, on va réduire la partie de stress. Pour ça, la première des choses, c'est de se renseigner sur l'entreprise, sur les missions que le poste sur lequel on postule recouvre, sur les valeurs de l'entreprise, sur les projets que peut avoir l'entreprise. La deuxième chose, c'est bien lister toutes ses réussites. Et également, c'est un petit tip que je donne par rapport aux entretiens, c'est ne pas hésiter à parler de ses échecs, de façon à montrer aux recruteurs qu'on a eu des échecs dans la vie, mais qu'on a réussi à trouver des solutions. Donc cette transparence-là et cette capacité à trouver des solutions va lui donner un regard positif. Et la dernière chose, de façon à pas avoir à lire ou à réciter un discours qu'on a préparé, c'est juste focaliser sur trois choses. C'est la première, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise. La deuxième, c'est quoi mes moteurs individuels, pourquoi j'ai postulé à l'entreprise. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que je cherche concrètement. Ça donne des repères, ça fait moins lecture. La deuxième chose, c'est la partie physique, la partie physiologique, comme on dit. La première de toutes, c'est faire en sorte de faire baisser le cœur qui va avoir tendance à accélérer, à enlever les mains moites et à refaire descendre la respiration qui va se raccourcir. L'outil, je vous le redis encore une fois, c'est la cohérence cardiaque. Allez voir, allez télécharger les applications. Ça va faire vraiment baisser de façon significative votre système nerveux. Et la deuxième chose au niveau du corps, c'est l'ancrage corporel. Si on n'a qu'une seule jambe qui est posée au sol ou si on laisse ses mains un peu agir n'importe où, le recruteur va voir que le stress est en train de nous gagner. Si on pose les deux pieds au sol, on écarte un petit peu les jambes de façon à être vraiment stable. Si les mains, on les pose l'une sur l'autre sur la table et qu'on maîtrise ces mouvements, pas plus haut, enfin qu'il n'y ait que comment vous dire, que la partie l'avant-bras qui bouge et ne jamais décoller les coudes des bras pour parler, ça va vous envoyer un message très clair et au recruteur et à votre cerveau, ça va lui dire ben, je suis en sécurité, je peux me recentrer. C'est ce qu'on appelle un recadrage mental, on va dire. Et la dernière chose, c'est le discours qu'on va se tenir avant même l'entretien, quand on est dans la voiture, quand on y va. Naturellement, le cerveau, si on lui laisse prendre les rênes de nos pensées, il va se dire « il faut que je sois parfait, il faut que je le convainque à tout prix ». Et là, c'est légitime quand on met des phrases comme ça dans notre cerveau, la pression augmente et ça nourrit le stress tout naturellement. L'enjeu, c'est de changer de paradigme et de se dire « je vais à l'entretien tout simplement pour vérifier si l'entreprise et moi, on se correspond mutuellement ». En faisant ça, on change complètement de posture. On n'est plus seulement en train de se vendre, de vendre son CV, on est en train d'évaluer si l'environnement, les missions, voire même le management qu'on peut percevoir au travers du recruteur nous conviennent. Ça va nous mettre dans une situation où on va se dire ben, « j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit d'explorer le poste ». Et tout simplement, je vais être davantage moi-même parce que ça sera un échange. Ça ne sera pas juste le recruteur qui va poser des questions auxquelles je vais répondre. Ça sera un échange de questions et de réponses dans les deux sens. Et ça va apporter vraiment une qualité de relationnel avec la personne qui est en face de vous. On va se mettre plutôt en position équitable et pas de supériorité du recruteur vis-à-vis de quelqu'un sur qui il a le pouvoir de dire ben, c'est oui ou c'est non. En fait, vous aussi, quand vous passez un entretien d'embauche, vous êtes capable de dire « je suis désolé monsieur, votre entreprise ne me convient pas suite à l'entretien et je vous dis merci et au revoir, à bientôt ».
Et on remercie Sylvie, on lui souhaite surtout bon courage pour sa série d'entretiens d'embauche et n'hésitez pas Sylvie à nous écouter la semaine prochaine avec cette thématique de l'entretien d'embauche. Deux autres questions. La première, c'est presque même plus un témoignage. On a Delphine qui habite à Montaigu qui nous dit « Depuis que je suis en télétravail, j'ai beaucoup plus de stress puisque je ne peux pas vraiment me confier facilement à mes collègues comme avant. Et en plus, je ressens une pression supplémentaire concernant ma productivité. C'est vrai que ça peut être des problématiques, ça lié au télétravail, Damien, c'est le fait de ne pas pouvoir côtoyer des collègues, d'être un petit peu seul face à son stress, et puis de manquer de légitimité, de se dire qu'il faut qu'on produise plus et mieux parce qu'on est à la maison.
Oui, il y a deux choses dans ce témoignage-là. La première, c'est le lien social. C'est évident que de voir des collègues amène une sérénité, on permet d'échanger, on est des êtres sociaux, hein. L'être humain est un animal social, on a besoin de rencontres, on a besoin de rigoler, on a besoin de discuter, on a besoin de se challenger, on a besoin de se poser des questions, de se rassurer. C'est évident que le télétravail enlève toute cette partie-là. La deuxième chose, c'est être au fait avec les missions qui me sont confiées, sans avoir besoin du regard de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que mon manager me donne cette mission-là, il faut que moi je sois en responsabilité, capable de me dire c'est OK ou c'est pas OK. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, se dire j'ai pas besoin du regard de mon manager pour me dire j'ai fait du bon travail ou pas. Certains ont la chance d'avoir des managers qui leur disent c'est bien, t'as progressé, t'as bien réalisé cette tâche, ou t'as fait exactement ce qu'on t'a demandé, ou t'as pris d'initiative, ça c'est chouette. Quand le manager le dit, c'est top. Et il y a des moments où il faut être capable de se dire soi-même à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce qu'on me demandait en début de journée? Qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma journée? De façon à se satisfaire aussi de son travail et se dire, ok, ben, j'ai bien bossé, je vais aller au-delà de ça, je mérite mon travail, je mérite mon salaire. et pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est tendre vers plus d'autonomie et plus de responsabilité.
Et ça, c'est très important, effectivement, de le prendre en compte. La dernière question, c'est Nicolas de Talmont-Saint-Hilaire. Alors, il peut venir te voir, il est pas très loin pour le coup.
On n'est pas loin.
Ma compagne me dit que je suis stressé et pourtant je n'ai pas l'impression de l'être. Du coup, ça m'énerve encore plus. Comment faire quand on ne se rend pas compte pour le savoir ? C'est vrai que je vais rejoindre Nicolas parce que je suis un peu pareil. Quand quelqu'un vous dit qu'on est stressé alors qu'on n'a pas l'impression, c'est vrai que ça peut énerver.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa conjointe veut prendre soin de lui, donc ça, c'est top. Elle lui dit des stress, donc ça veut dire qu'elle perçoit chez lui des signes qui sont sûrement liés aux signaux que je disais tout à l'heure. Hein. Ça peut être peut-être physiquement, ou peut-être qu'il se plaint d'avoir mal au dos, des raideurs, peut-être un sommeil qui est difficile, et peut-être c'est peut-être de l'irritabilité. C'est comme ça qu'elle le perçoit, en fait, c'est qu'elle doit peut-être voir les signaux de son conjoint. Donc c'est bon signe parce qu'elle veut que les signaux s'éteignent. Ça, c'est chouette. Et la deuxième chose, c'est que l'enjeu, c'est de ne pas être comme une autruche, c'est de mettre la tête sous la terre et de se dire, tiens, je ne vois pas ce qui se passe. J'aurais tendance à dire à cette personne-là, tiens, et si je prenais 30 secondes pour analyser un petit peu mon niveau de stress, depuis combien de temps je ne me suis pas senti complètement libre, depuis combien de temps est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi, à me balader sans penser à mon travail, à pas regarder les notifications de mon travail. Il y a ça, tiens, on n'en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure, et du manager et du collaborateur, c'est d'avoir des vrais temps de déconnexion. Peut-être que ce qui a généré ça chez la conjointe de ce monsieur, c'est de se dire il est toujours sur son téléphone en train de regarder les notifications de son travail. Vraiment se déconnecter est fondamental. Hein. On a des heures de travail qui sont définies par notre contrat de travail. Le reste du temps est du temps personnel. Donc pour les collaborateurs qui ont des outils numériques qui sont connectés, soit parce qu'on est en télétravail, soit parce qu'on a un téléphone portable dans son activité, si vous avez deux téléphones, coupez celui qui n'est pas votre téléphone professionnel et n'allez pas voir vos mails. Et je vais parler au manager. Si vous devez envoyer un mail parce que vos heures sont décalées ou autre, vous avez la capacité à programmer l'envoi de vos mails aux heures de travail de vos collaborateurs, de façon à ce qu'ils ne sentent pas cette pression-là en se disant « Tiens, le chef, il est arrivé à 6h du matin ou il est parti à 22h le soir. » Ça, c'est le problème du manager. Je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, hein. Mais c'est son problème à lui, il n'a pas d'obligation, il n'a pas de raison de générer cette pression-là sur les heures de travail à ses collaborateurs.
Et on remercie Nicolas, tout comme Sylvie et Delphine, de nous avoir posé des questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le site du podcast Vendéen, lepodcastvendéen.fr, ou alors sur nos différents réseaux sociaux. Cet épisode de Vendée Job est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis, et je le disais pour les questions. Merci beaucoup à Damien, c'était parfait. On rappelle que Damien est fondateur de Kizen Consulting, donc vous pouvez consulter Damien directement, notamment au SAP d'Olonne, et puis écouter le podcast Les Clés de la Sérénité. On peut faire aussi appel à toi en visio, Damien, je suppose ?
Exactement, tout à fait.
Donc Kizen Consulting, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver facilement Damien, et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vendée Job. D'ici là, restez à l'écoute du podcast Vendéen. Merci beaucoup Damien.
Merci Benjamin.
Vendée Job, le podcast du podcast Vendéen consacré à l'emploi en Vendée. Vendée Job.